Et penchons-nous maintenant sur cet abîme mesquin, Noémie. Je ne l'ai connue qu'octogénaire, tassée et alourdie par l'âge, allant et venant dans les corridors du Mont Noir, comme dans un récit de Walter de la Mare, l'inoubliable tante de Seaton rôde dans sa maison vide. Devenue aux yeux des enfants qui la regardent, l'épaisse incarnation de la mort, ou pire encore, du mal. Brouillée avec son fils, en froid avec son gendre, qu'elle craignait, à la fois partiale et sardonique envers son petit-fils, elle me brimait sans parvenir à entamer ce cocon d'indifférence qui parfois entoure l'enfance et la défend contre les provocations des adultes. Après ces trois repas, elle allait s'asseoir au salon dans une encoignure d'où elle pouvait surveiller sans être vue toute une enfilade de pièces et entendre ce qui se disait contre elle au sous-sol, grâce à une bouche de calorifère faisant fonction de tuyau acoustique. Avertie, comme on le pense bien, les domestiques ne parlaient d'elle qu'à bonne distance de l'endroit en question, ou à bon escient. Si une mauvaise plaisanterie s'exhalait de la bouche de chaleur, madame y trouvait du reste l'agréable occasion d'une scène. Sa femme de chambre, fortunée, qui la servait mal, mais avec qui elle avait ses habitudes, machinait à son gré le renvoi du délinquant ou sa rentrée en grâce. Les religieuses gardes-malades qu'on mit près de ma grand-mère vers la fin étaient soumises au même régime policier. Cette vieille femme, qui avait toute sa vie craint la mort, finit seule au Mont Noir d'un arrêt du cœur. « Du cœur ?» s'écria un voisin de campagne facétieux. Elle ne s'en était pourtant pas beaucoup servie. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Valentin Dedon et je suis ravi de vous retrouver sur Radio G pour un nouvel épisode d'Albertine, l'émission qui se souvient de nos grands-mères. De lundi par mois à 13h, en semaine impair, ou quand vous le désirez sur radio-g.fr, on discute de nos grands-mères avec une ou un invité. Un abîme mesquin, au cœur inutile, brimant sa petite fille. Le portrait dressé de cette grand-mère odieuse en devient presque comique. Il est l'œuvre d'une grande dame, d'une grande écrivaine, Marguerite Yourcenar, qui entreprit à la fin de sa vie d'explorer les racines familiales, pour le meilleur et le pire, Noémie donc, dans un triptyque dont fait partie le livre « Archives du Nord » paru en 1977 et dont je viens de lire un extrait en exorde de cette émission. Je suis à peu près persuadé que nous allons plonger dans une atmosphère tout autre avec notre invité du jour que je suis heureux d'accueillir à ce micro, le chanteur Nerloff aux multiples grand-mères, dont certaines se mêlent à quelques-uns de ses clips, notamment celui de son dernier titre en date, « Mon plus grand regret », devenu à titre personnel un hymne dansant et intelligent, évoquant la complexité de la question du devenir père. Bienvenue Nerloff et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Albertine.
Bonjour.
Alors Nerloff, première question rituelle de cette émission, c'est quoi le prénom de tes grands-mères ?
Comme je disais en off, j'ai la chance d'avoir quatre grands-mères, enfin, il m'en reste plus que trois. Donc ma grand-mère maternelle s'appelle Simone, dit Manou.
Manou, ok.
Ouais, ma deuxième grand-mère maternelle, qui est donc la femme de mon grand-père, de son père, Janine, qui nous a quittés il y a quelques années, dit Nine. Du côté de mon père, ma grand-mère directe, c'est Paulette, dit Mamie Paulette. Et la mère de ma belle-mère, la femme de mon père. Je pense que là, on a perdu tout le monde.
j'allais dire en introduction, suivez bien.
Ouais, c'est Morissette, dit Mamissette.
Alors là, c'est merveilleux parce qu'aujourd'hui, on a quatre grand-mères.
Ouais. C'est puis quatre vraies grand-mères et quatre personnes vraiment importantes. Ouais.
Alors, est-ce que tu peux nous les présenter un peu une à une ? On peut peut-être suivre ton ordre, commencer par Simone. Où elle vit, qui elle est, à quoi elle ressemble ? Est-ce que tu peux nous la décrire, nous la dessiner un peu ?
Manou, c'était une femme très très indépendante qui habitait à Paris, qui est née à Paris, qui a grandi à Paris, qui a vécu l'occupation, qui travaillait au bazar de l'hôtel de ville comme couturière, qui aimait beaucoup danser. C'était une femme une charmeuse. Voilà, qui a eu donc qui s'est mariée avec mon grand-père, qui a eu ma mère et ses deux sœurs. Et qui avait grand soif d'indépendance, donc ça a fini par ils ont fini par divorcer à une époque où on divorçait pas trop.
Une soif d'émancipation, de vivre
liberté,
une vie libre et déchargée, des institutions, du mariage, des empêchements que vivaient les femmes à une époque.
Exactement, déchargée des responsabilités. Je pense aussi peut-être un petit peu égoïste, peut-être un petit peu aussi, je pense, en tout cas c'est ce que dirait un peu ma mère. c'est une femme qui s'est vraiment adoucie avec l'âge. Donc moi, quand j'étais enfant, on allait la voir, elle habitait au 18e étage d'une tour à Épinay, sur Seine, dans la banlieue parisienne. Donc ça, j'ai un super souvenir gamin de cet appartement, où on était donc en banlieue, mais on voyait la tour Eiffel du 18e étage, c'était assez impressionnant. Et ensuite, à la retraite, elle a rejoint une de mes sœurs à Perpignan, et puis ensuite, elle s'est rapprochée de ma mère et de ma tante du côté de Beaugé. Et là, maintenant, elle a 97 ans, elle est à l'EHPAD de Jarzé.
Alors, tu vas la voir à l'EHPAD, ouais, tu vas la visiter.
Bien sûr. Et cette grand-mère-là, Manou, est dans mon clip « Quel dommage ». C'est la dame que je pousse dans son fauteuil.
D'accord. Et alors, Manou, tu nous as dit beaucoup de choses. Là, tu as parlé de cet appartement, des souvenirs d'enfance, de sa liberté. Est-ce qu'elle t'a transmis tout ça, ou elle te transmet encore des éléments de sa vie? Tu sens que ça t'a aussi marqué, ça t'a guidé, ce sentiment de liberté, cette émancipation qui l'a habité?
Ça, je ne sais pas trop. Je l'ai assez récemment, il y a quelques années, je dirais, entrepris de la questionner un peu sur sa jeunesse, justement sur toute cette période un peu sombre de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'elle a vécu, enfin, elle a vraiment vécu l'occupation à Paris. Ses parents tenaient une épicerie non loin des Champs-Élysées. Donc, elle a vraiment vécu le truc. Elle était gamine, mais elle voyait les officiers allemands qui venaient acheter de la volaille, des trucs. Je crois que sa mère, mon arrière-grand-mère, refusait de leur vendre de l'alcool, cacher les bouteilles ou je sais pas, ce genre de truc. Enfin, voilà. Donc, je la questionne pas mal sur ce genre de. sur les faits historiques. Après, indirectement, est-ce que elle m'a influencé? C'est pas la grand-mère dont je suis le plus proche. Donc, je pense pas.
Et alors, c'est qui la grand-mère dont tu es le plus proche?
Je pense que c'est quand même Paulette, hein, mamie Paulette, qui m'a vu. Enfin, qui m'a vu naître. Déjà, on habitait à côté, donc en effet, elle m'a beaucoup, beaucoup gardé. Et surtout, quand je suis né, elle n'avait que 43 ans. Donc, je ne sais pas quel âge tu as. Moi, j'en ai 38. Je te laisse imaginer.
44, moi.
Je suis
plus vieux que voilà. Paulette quand elle t'a rencontré.
Tu te verrais avec un petit-fils d'un an. Hein. c'est, ouais, c'est
j'adorerais être grand-père, mais il faut être père avant d'être grand-père.
Pareil. Plus pratique. Donc, ouais, non, Paulette, donc mes parents s'étant séparés plutôt très jeunes. Ce qui, à mon sens, est une bonne chose, parce que je n'ai pas senti de traumatisme, ou en tout cas pas de traumatisme conscient. C'était pas rare, voire assez régulier, que j'aille plus chez ma grand-mère paternelle que chez mon père. Parce que du coup, c'était à l'ancienne, hein, quand ils se sont séparés à l'époque, je voyais mon père du coup un week-end sur deux. On n'était pas sur un schéma où aujourd'hui c'est des schémas où c'est plus une semaine, des semaines alternées. Là, c'était vraiment un week-end sur deux, donc c'était un peu compliqué, je pense, de créer du lien. Et je me sentais plus en sécurité chez ma grand-mère. Donc j'allais beaucoup, beaucoup, beaucoup chez ma grand-mère.
Et donc chez mamie Paulette, c'est presque une maison où tu as vécu, tu as passé beaucoup de moments. Qu'est-ce qui se passait là-bas, enfant, avec mamie Paulette? Comment ça a construit aussi votre relation?
Mamie Paulette, elle habite, mamie Paulette et papy Raymond, qui nous a quittés il y a quelques années aussi. Ils habitent dans une maison, une ferme, enfin une petite ferme à Échemiré, hein, entre Jarzé et Beaugé. Et donc, mon enfance, c'était tantôt, parce qu'on dit tantôt dans le coin, tantôt dans le jardin, aller ramasser les haricots verts, les fraises, les framboises, tout ce qu'on veut, nourrir les lapins. Et puis, j'allais faire aussi avec elle, j'allais faire les ménages, parce que c'était la dame de la cantine d'Échemiré, qui faisait aussi le ménage le mercredi et le samedi. Donc, j'allais souvent avec elle à l'école, quand il n'y avait personne dans cette école d'Échemiré, faire le ménage. Et voilà, et puis des gâteaux, on a fait beaucoup de gâteaux.
Il y a toujours l'espace de la cuisine avec les grands-mères qui arrivent à un moment donné.
Oui, ouais. Avec celle-ci, oui. Pas du tout avec celle-ci. Par exemple, voilà, ma grand-mère maternelle, je crois que je n'ai jamais vu cuisiner vraiment.
Oui, c'était... Je ne veux pas simplifier les choses, mais ça correspond aussi un peu à ce que tu nous disais, que l'espace de la cuisine, c'était peut-être l'espace aussi d'obligation de la femme dont elle s'est peut-être détachée ou qui ne l'intéressait pas.
Oui, puis il y avait un côté très, très urbain. C'est une femme de la ville, Manou, alors que Paulette, c'est une femme de la campagne.
Oui, ça dessine déjà deux univers très différents.
Rien à voir. Ouais, on demande deux mondes qui n'ont rien à voir.
Et c'est aussi une richesse, quoi, d'être, de voir, de, en tant qu'enfant, adolescent, de voir aussi qu'il y a, il y a ces deux espaces très différents dans lesquels vivent les gens de la richesse. Famille.
Moi, je suis très content, c'est super. Super d'avoir vécu ça, des choses très différentes. Ouais.
Et alors aujourd'hui, avec Mamie Paulette, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites ensemble?
Eh ben, je vais manger chez elle de temps en temps, parce que du coup, elle est encore toute... Enfin, elle a la pêche, quoi. Elle a clairement la pêche. Enfin, elle a dit que non, mais en fait, elle est tout le temps dans le jardin, elle fait des trucs qu'elle ne devrait pas faire, comme couper du bois ou des trucs. Enfin, bref, elle est... c'est une force de la nature. Donc, ben, je vais la voir de temps en temps, et puis on aime bien, on discute de plein de choses, de la famille, tout ça. Moi, je suis l'aîné des petits-enfants.
Et, oui, ça, c'est un statut particulier, peut-être.
Du côté de mon père, je suis l'aîné des petits-enfants, et du côté de ma mère, je suis le petit dernier, des cousins.
Ah, encore des espaces opposés.
Exactement, ouais. Et donc, je ressens que je suis le chouchou, en étant le premier. Et puis, c'est ce qu'on en rigole pas mal avec les cousins, c'est ce qui se dit, en tout cas, que je suis un peu le chouchou, mais forcément, je pense que oui, je suis le premier, quoi. Donc, puis les autres sont arrivés un peu plus tard, après moi.
Les autres, c'est la routine. Hein.
Les autres, c'est la routine, on connaît.
Mamie Paulette, elle se retrouve aussi dans certains de tes clips, plusieurs de tes clips. Raconte-nous un petit peu comment c'est arrivé aussi, cette possibilité de l'intégrer à tes projets, à ta musique.
Eh ben, déjà, elle voulait pas.
C'est toi qui lui as proposé d'abord.
Bien sûr. Ouais. En fait, elle apparaît dans le clip DPT, un morceau en featuring avec Magenta. Et donc, encore une fois, j'avais convié toute ma famille pour tourner le clip à la société de Boule de Fort de Fougeray. Et elle était venue plus ou moins pour faire les sandwichs et tout. Et j'avais dit, elle voulait pas apparaître à la caméra. Et j'avais dit, aux gens qui filmaient, essayer de la choper. Donc ils avaient réussi à l'avoir discrètement. Après, elle avait accepté. De toute façon, elle n'a pas Internet. Donc j'ai envie de te dire, quelque part, elle s'en fout. Et là, pour le clip de Mon plus grand regret, je lui ai demandé. Elle a accepté. Et même sans trop... sans trop râler. Parce que je m'attendais à un refus et elle m'a dit d'accord si tu veux. Et je trouve qu'elle est parfaite là, dans ce clip. Elle est elle-même, quoi. Vraiment, elle est un peu froide peut-être. Elle est dure, mais elle est marquée. Elle a un truc assez puissant. Et ça, c'est assez drôle. Donc son rapport, elle, à la caméra, c'était non, je ne veux pas apparaître à la caméra, c'est pas mon truc, je ne comprends pas ce monde-là. À l'inverse, quand j'avais proposé à Manu d'être dans le clip de Quel dommage, aucun problème, c'est parti. Elle a joué le jeu à fond. Je l'ai fait chanter du playback à un moment donné. Enfin,
elle rayonnait, elle se sentait à sa place, ça l'a comblé.
Ouais, c'est ça.
Là encore, on voit aussi c'est très révélateur de ces deux univers très différents.
Ouais.
C'est vrai que dans le clip, on voit Mamie Paulette, on voit qu'elle bouge un peu les lèvres. On ne sait pas si elle chante ou si c'est la structure de son visage qui fait ça.
Ouais. Bah, je sais pas trop ce qui se passe dans sa tête. C'est ça qui est, c'est un grand mystère, Mamie Paulette aussi. Hein. Alors, on pourrait penser qu'elle est pas très sensible. Moi, je pense qu'elle l'est plus que ce qu'elle ne dit.
Ou que de ce qu'elle ne montre, ou que ce que son corps montre.
Elle montre pas trop ses sentiments, c'est ça. Elle peut passer pour quelqu'un d'assez dur. Mais elle l'est pas tant que ça. Mamie Paulette, c'est quelqu'un qui me disait à l'époque, faut savoir qu'elle, pareil, elle a grandi dans une ferme où à 6-7 ans elle travaillait, hein. Enfin, ça a toujours été la vie à la dure, hein. Pour elle, les maladies mentales telles que la dépression, ça n'existait pas. Elle ne s'est jamais écoutée, elle ne s'est jamais plaint, déjà parce qu'elle n'avait pas le temps. Et du coup, lorsque mon grand-père est parti, c'est là qu'elle m'a dit, ah bah tu vois, je pensais que c'était des conneries, que ça n'existait pas, et en fait si, ça existe. Et elle a fait une petite dépression. Et quelque part, c'était presque salvateur, parce qu'au moins, elle s'est rendue compte que ça existait, quoi.
Elle s'est aussi découvert sensible à ressentir des choses, et c'est merveilleux qu'elle te l'ait partagé aussi.
Bien sûr, oui, mais elle partage avec moi. Ouais. Ouais, ouais.
Oui, toi, tu sais qu'elle peut ressentir des choses, et vous avez un espace aussi pour parler de ces choses-là.
Oui, carrément. Mmh. Ah bah oui.
Donc, Mamie Paulette, est-ce que... Ou Simone aussi, est-ce que aussi elle... Elles aiment bien écouter ta musique, elles sont déjà venues te voir à des concerts. Quel est le lien à ta création aussi?
Pas trop. ma grand-mère Paulette, elle n'écoute pas de musique. C'est, je te dis, elle n'a pas d'ordinateur, pas Internet, elle n'écoute pas de musique chez elle. C'est, il doit y avoir trois CD qui traînent, vraiment. Donc non, jamais, elle n'est jamais venue me voir en concert, ça la dépasse. Elle ne sait pas ce que je fais, elle ne comprend pas.
Mais elle ne se rend pas compte de ce que c'est, de ce que c'est tu ça, fais.
Ouais. Et Manu, bon, déjà pour des raisons j'ai envie de dire de santé, elle n'est jamais pu se déplacer à un concert. Mais par contre, Manu, elle adore la musique, elle aime la grande musique. Elle est branchée en permanence à l'EHPAD sur les chaînes, à regarder des orchestres symphoniques.
France Musique.
Harmonique, elle est à fond. Donc elle trouve ça rigolo ce que je fais, mais c'est pas de la musique pour elle, je pense.
Un petit concert à l'EHPAD où elle est peut-être,
ça peut être un projet. Ça pourrait complètement être quelque chose. Bah toi, je te parlais du piano voix, c'est un truc qui pourrait être complètement envisageable s'il y a des EHPAD qui sont chauds, nous on vient avec plaisir. Ah oui, moi j'aime beaucoup même le rapport au troisième âge, j'aime beaucoup les anciens, c'est quelque chose d'assez assez touchant, ce côté un peu déjà très fragile, hein, c'est attendrissant, je trouve. Et puis de s'imaginer quand on voit quelqu'un d'âgé, bah, qu'il y a toute une vie derrière. Et des fois, on a du mal à le voir, ça, je trouve. Il y a une jeunesse, et ça paraît toujours impalpable, je trouve. On n'arrive pas à s'imaginer que cette personne-là a pu être jeune et courir partout et avoir une vie, en fait, quoi. Donc j'aime bien, ça me cause les vieux.
Alors, on n'a pas parlé encore de Janine.
Ouais. Ah, Janine. Bah, Janine, donc c'était. Moi, je l'ai toujours connue. Hein. Mon grand-père était marié avec Janine avant ma naissance. Et du coup, elle nous a. Tous les cousins, cousines. Elle avait deux, trois petits-enfants, du coup. Elle avait une fille avant de rencontrer mon grand-père. Du coup, on a des cousins, cousines par alliance. Et, mais bon, elle a toujours été une vraie grand-mère à 100%, très 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 aimante, très très apprêtée, très smart, très douce. Enfin, c'est une grand-mère pareil que je voyais comme mon grand-père, c'est pareil, ils habitaient en Seine-et-Marne, au Péreux, qu'on se voyait deux trois fois par an, quoi. On n'était pas très très proches. Enfin, on était très proches, mais si quand même, ils faisaient quelque chose d'incroyable quand on était gamin, c'est qu'ils nous emmenaient en vacances. Ils nous prenaient tous les cousins.
Vous partiez tous ensemble.
Par section d'âge, ouais. Oui, une fois, ils nous ont tous pris, ils ont dit plus jamais. On était, je sais plus combien, 6 ou 7, c'était trop. Mais après, ils nous prenaient par session de semaine, il me semble. On allait à Châtel-Layon, on allait en Auvergne, on faisait des trucs comme ça. Et c'était incroyable de faire ça, de prendre les 4-5 petits-enfants à une époque où on remuait pas mal. Pendant deux semaines en vacances, il repartait sur les rotules.
Et t'as quoi comme souvenir de ces vacances
Oh là là, c'est quoi, plein de souvenirs émouvants. Notamment à Châtel-Layon, là où j'étais vraiment petit, il louait une belle maison au bord de la mer. Et puis on passait l'après-midi à la plage avec mon grand-père, qui était pour le coup une grosse figure pour moi, pour tous les cousins, cousines, un personnage très très important pour ses filles surtout.
Et cette importance-là, ce charisme, il tenait à quoi d'une manière d'être,
ouais, une manière d'être, de se comporter avec les autres. C'est ça, ouais. C'était, il aurait pu être acteur, quoi. Et c'était un mélange entre Michel Galabru et Jean Gabin, quoi. Tu vois, ce genre de force de la nature, pompier de Paris. Livreur de champagne, tu vois, c'est un vrai Parisien, tu vois, avec la guépette et tout, qui connaissait Paris comme sa poche. Chaque fois, nous faisait des Paris by night, nous racontait des anecdotes à chaque coin de rue. Enfin bref, pour en revenir du coup, parce que là, c'est une émission sur les grands-pères.
C'est ça, on a fait quand même une petite exception d'une trentaine de secondes,
c'est vrai, voilà.
pour le grand-père.
Et du coup, pour la grand-mère Janine, c'est vraiment ces moments-là où. Après une après-midi de jeux endiablés sur la plage, de courses de brouettes avec les cousins, je sais pas si tu vois ce que c'est une brouette.
Ouais. Oui, oui.
Enfin, pas une vraie brouette, mais une course de brouettes.
Oui, bien sûr, on tient les jambes par les jambes, exactement. Et on avance. Voilà. J'ai souvent fait ça.
je suspecte mon grand-père de faire ça, de nous user jusqu'à l'os, nous fatiguer. Jusqu'au moment où arrivait 16h, 16h30 et où Nine arrivait avec le 4K et le chocolat Milka. Ça, c'est gravé.
Tu disais, c'est une vraie grand-mère, ça veut dire qu'elle était un peu dédiée à vous quand vous étiez là, les histoires, elle s'occupait à fond de vous.
C'est ça. Et tu vois, sans... de toute façon, elle n'écoutera pas, mais tu vois, y a une fibre, je pense, grand maternelle, j'ai envie de dire. Paulette, là vraiment, Janine, là vraiment, Morissette, on en parle vite fait encore plus que toutes, j'ai envie de dire. Simone, pas du tout. Alors, elle n'écoutera pas, ça lui ferait beaucoup de mal si elle entendait ça, parce qu'en plus, elle s'est vraiment, vraiment adoucie avec l'âge. Et moi, je fais partie de ceux qu'elle aime bien. mais elle peut être un peu dure. Elle peut être un peu dure, elle n'a pas cette fibre-là. Même avec ses filles, elle n'a jamais été une super. Enfin, Dieu me préserve qu'elle entende ça. Mais bon, c'est pas. Je l'aime beaucoup, mais c'est pas une grand-mère dans l'âme. Voilà.
Ouais, mais il faut reconnaître ce genre d'aptitude.
Bien sûr. Oui. Mmh. Ouais. Elle a toujours privilégié son indépendance de femme plus que ses responsabilités de mère et de grand-mère.
Voilà. Oui, plus que cet espace familial qui peut être ultra précieux pour certains, qui peut être aussi un petit peu oppressant pour d'autres. Voilà.
Bien sûr, c'est ça, avec chacun la vie comme elle peut. Et je pense que c'est aussi un combat actuel d'arriver à combiner les deux, d'être à la fois une mère et une femme indépendante et accomplie et épanouie, et ne pas être soit l'un, soit l'autre, quoi.
Ouais, tout à fait. Tout mettre ouais, ensemble, réussir à tout mettre ensemble.
Ouais, bien sûr. D'où la fameuse charge mentale qui est terrible.
Et Morissette, alors tu l'as mis au top de la grand maternitude.
Eh oui, parce que Morissette, elle a quand même eu 10 enfants. Ma belle-mère, c'est l'avant-dernière. Elle a eu 10 enfants. Elle était famille d'accueil. Et moi, donc, je fais partie des petits-enfants rapportés. Je crois qu'elle est rendue à 20, 25, entre 25 et 30 petits-enfants, quinzaine, voire une vingtaine d'arrière-petits-enfants. C'est une, pour le coup, là, on parle de fibre maternelle, extrême, poussée à l'extrême. Ouais. Très, très, très aimante, très généreuse. Et même, très généreuse dans son attitude, pareil, qui nous emmenait aussi en vacances à Noirmoutier avec mon grand-père. Enfin, avec son mari, qui du coup, pareil, j'ai pas connu le père de ma belle-mère. D'ailleurs, elle l'a à peine connu aussi. Et du coup, Morissette s'était remariée, quoi qu'ils ne sont même pas mariés, je crois, avec Gabi. Et pour la petite histoire, ce qui est assez drôle, c'est qu'à l'époque, ils se sont rencontrés sur Tinder. Et Tinder, à l'époque, c'était une petite annonce dans le journal.
Oui, voilà, c'est l'ancêtre.
L'ancêtre, bien sûr. Elle avait mis un petit mot, femme, pas jeune femme, parce qu'à l'époque, elle avait au moins 50 ans, je pense. Femme célibataire, avec un temps d'enfant, habitant à Fougeray, recherche, homme. C'est fou, hein.
Et j'avais vu un documentaire sur ces petites annonces, quoi, ouais, qui pullulaient et qui marchaient très bien. Ouais, bien et sûr. En fait, rien, pas beaucoup de choses ont changé.
Tinder a rien inventé, ouais, c'est ça. Donc très généreuse, enfin, pour illustrer mon propos, donc moi j'étais un petit enfant rapporté pour elle. Elle a jamais fait de différence, ou en tout cas je ne l'ai vraiment jamais senti. Et c'était toujours, même encore une fois, elle avait vraiment pas beaucoup d'argent, mais à chaque anniversaire il y avait un petit billet, un petit truc, alors que on avait 25 des
petits. Ah, c'était un budget, hein.
Ouais, c'était un budget, ouais. Mais elle tenait toujours à faire un petit geste. Ouais.
C'est très touchant, quoi.
Ouais,
c'est,
ouais.
C'est, bah, c'est, ça représente dans quoi. Son contexte.
Bien sûr, ça représente quelque chose, quoi. Donc, c'est bizarre, mais c'est comme une preuve d'amour ou de considération, quoi. Donc, c'est important.
On a parlé un peu des clips dans lesquels tes grand-mères apparaissaient. Est-ce que ce sujet de la grand-maternité ou plus globalement de la famille inspire des fois, t'as envie de faire d'autres projets en lien avec ça, ou inspire des textes, comment tu te situes par rapport à ce thème, ouais, dans ta création?
Sur cet album, c'est vrai que du coup il y a mon plus grand regret, où je m'adresse directement à ma famille. Il y a un autre morceau qui s'appelle, sans spoiler, qui s'appelle Merci, où je parle aussi du coup de mes parents. C'est un rapport un peu particulier à la famille, hein, parce que avec des parents séparés très jeunes, un père que je voyais qu'un week-end sur deux, c'était pas évident de construire une relation. On s'aime beaucoup, hein, mais je me considère vraiment comme chanceux. C'est pas du tout le bureau des plaintes, pour rien au monde, je change ma situation. J'ai eu la chance d'avoir du coup une belle-mère incroyable, un beau-père incroyable.
Enfin, il y a aussi grâce à cette situation des êtres humains qui ont émergé, qui ont rempli ta vie et qui t'ont accompagné.
Ouais, c'est que du plus, c'est vraiment que du plus. Alors attention, c'est... Il y a forcément, je pense, des quelques névroses, quelques trucs qui traînent liés à ça, forcément, parce que c'est jamais simple. Mais aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je trouve ça super, une richesse incroyable. Et donc, dans mes clips, bah, c'est un peu, je pense que c'est plutôt une recherche, à la recherche de la famille. C'est pour ça que j'essaye de je sais pas comment dire, de les intégrer comme je peux. En plus, c'est des figurants pas chers. Non, mais je trouve que ça raconte quelque chose de beau. Je trouve qu'il y a vraiment un truc... Je suis parti rapidement, moi je suis parti à 13 ans à l'internat. Donc c'était beaucoup plus simple comme ça. Et du coup, j'ai vraiment mis sur quoi, j'ai mis la famille de côté pendant pas mal d'années. Et là, je prends plaisir à essayer de recréer du lien comme je peux. Je pense toujours pas suffisamment présent, j'imagine. Mais j'essaie de l'être de plus en plus. Plus je vieillis, plus je suis familier.
Et tu as raison, c'est très beau dans ton dernier clip, mon plus grand regret, de la manière avec laquelle il t'entoure, manière très simple, mais très proche. On ressent ce lien.
Qui est intéressant, qui est un lien je me suis toujours senti un petit peu à part, mais toujours accueilli à bras ouverts. Je ne sais pas si c'est très clair, mais volontiers accueilli et intégré, mais quand même de fait un peu à part, forcément.
Alors Nerlof, il est déjà l'heure de mettre un terme à cette conversation grand-maternelle. Merci beaucoup d'être venu rendre visite à Albertine.
Eh ben, bonjour Albertine, enchanté.
Merci à toutes et à tous pour votre écoute. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'Albertine sur Radio G. Et on se quitte en musique avec un morceau dont on a un peu beaucoup parlé. Le dernier titre de Nerlof, Mon plus grand regret.
Ça sera sans doute mon plus grand regret si je le fais pas, de pas en avoir fait, sans parler d'avoir une équipe de foot, mais au moins quelqu'un qui nous ressemblait. Moi c'est mon plus grand rêve de perdre une petite fille.